Bon, on va commencer la première séance de 2018 du séminaire du chant lacanien. D'abord, bonne année à tous et à toutes. J'espère qu'on va avoir continuer sur notre lancée du thème de l'année. Alors, je vais essayer de lire parce que j'ai oublié mes lunettes, puis je devrais avoir de la mémoire. On va d'abord commencer, on va inverser les interventions. On va commencer, si je peux me permettre, par l'homme pulsionnel, avec Bernard de Gaulle, hein, qui est psychanalyste à Paris.
Mais c'est le titre à Paris.
Je lis Bernard de Gaulle, l'homme pulsionnel. Donc on va maintenant l'écouter.
Alors par homme pulsionnel, je m'étais dit que c'était par opposition, comme ça m'est venu quand on m'a demandé un titre, à l'homme neuronal que vous connaissez, Jean-Jeux, et 25 ans qu'on nous en parle. Donc je pensais opposer radicalement l'un à l'autre, et pourtant, me direz-vous pas, je ne sais pas, Freud a commencé par là. Ça ne marche pas, ça ? C'est mieux avec ça ? Freud a commencé par quelque chose d'axé sur le neuronal avec son esquisse d'une psychologie scientifique, son Envoux. Il y a même des faux naïfs comme Mark Solms, par exemple, qui s'est fait comme ça, une carrière, une réputation pour redécouvrir l'esquisse de Freud et au fond dire que cela fonde sa neuropsychanalyse à Solms. Au fond, pour donner une sorte de base matérielle, physiologique, neurologique à l'inconscient freudien. Et c'est à quoi, me semble-t-il, répond par avance, comme c'est tout à fait lui, la lecture que Lacan fait de Lenvouf en 59-60 dans le séminaire d'éthique, où il met à jour le nerf de la découverte freudienne. Une éthique de la psychanalyse. Dans un passage très éclairant du séminaire 11, il y revient et il précise « Fragilité ontique de l'inconscient ». Ontique, ça veut dire donc de l'existence dans le vocabulaire de la phénoménologie, opposée à l'essence et à l'ontologique. Lacan parle de statut évasif. De l'inconscient. J'avais retrouvé ça dans un de vos textes, Colette Seller, mais je ne me suis plus souvenu duquel. Statut évasif de l'inconscient, il parle de son inconsistance. Son inconscient, il est là, en Gödelien, avant de l'être, en quelque sorte. Du point de vue de l'existence, l'inconscient est évanescent, évasif. Alors, dans la troisième leçon du séminaire 11, sa phrase est la suivante. Le statut de l'inconscient que je vous indique, si fragile sur le plan ontique, est éthique. À partir de là, on peut revenir au séminaire 7, au séminaire d'éthique, dont je dirais que la définition qu'il donne de l'éthique de la psychanalyse est indépassable. Imagine, éthique sous condition de désir, à hauteur de désir, le fameux ne pas céder sur son droit. Alors, désir, jouissance, façon actuelle de nous interroger sur la lecture de Lacan, alors, je vais essayer de trouver des biais ce soir pour m'interroger sur désir, jouissance. Et d'abord, cette troisième leçon du séminaire l'éthique, qui s'appelle « Une relecture de Lenvouf ». Une leçon d'une très très grande fraîcheur de ton, très grande vigueur. Lacan cible, je cite, « cet écart inhérent à l'expérience humaine, et il le définit comme un écart entre, je le cite, un plaisir indéfinissable qui mène toute la tendance inconsciente, et d'autre part, ce qu'il peut y avoir de réalisé, de satisfaisant, et dont la question est de saisir si c'est de l'ordre de l'éthique, du désir, pardon, ou pas. Et il conclut cette troisième leçon en disant que cela, cette alternative, en quelque sorte, n'a peut-être jamais été jusqu'à présent articulée comme telle. Jamais, disons presque jamais, si l'éthique de Lacan n'a de comparable que celle de Spinoza, quel philosophe qui définit l'essence de l'homme par le désir, et c'est pourquoi Lacan est spinozien. Il le sera encore plus lorsqu'il développera le concept de la structure, mais ce n'est pas notre thème ce soir. Du côté de Freud, la formule clé qui fonde sa position éthique, c'est que la névrose est le négatif de la perversion. Intervient dès les trois traités sur la théorie sexuelle. Autrement dit, si la sexualité est perversement orientée, ce que prouvent les aberrations sexuelles qui sont le thème du premier traité et la perversion polymorphe qui est le thème du second traité, la perversion polymorphe de l'enfant. La sexualité perversement orientée. Si c'est le cas, la névrose est la tentative de s'en éloigner, de dénier la perversion en symptomatisant. En 1910, au bout d'une quinzaine d'années de pratique de la psychanalyse, Freud définira la névrose comme présentation convertie de fantasme pervers. C'est en ce point que se conclut le premier tour de l'élaboration freudienne, avec pour repère dernière phrase de la trame de Lacan sur le désir indestructible. Alors ici, une petite remarque, toutes les autres approches de l'éthique versent plus ou moins dans le moralisme, que Lacan a toujours dénoncé. Voir par exemple la 23e leçon du séminaire d'éthique qui s'appelle les buts moraux de la psychanalyse. Il y dénonce les idéaux de la psychanalyse en fonction dans l'IPA, et tout particulièrement et au premier rang, celui de la génitalité, qui, dit-il, prétendrait donner la mesure d'un juste rapport au réel. On trouve ça à la page 349 du séminaire d'éthique. Et il ajoute « Il n'y a aucune raison que nous nous fassions garants de la rêverie bourgeoise. Un peu plus de rigueur et de fermeté est exigible de notre affrontement à la condition humaine. » Et il insiste là-dessus et il dit que la terminaison de l'analyse, comme on disait à l'époque, la véritable, je le cite, celle qui prépare à devenir analyste, doit s'affronter à la réalité de la condition humaine. Voilà ce terme en 1960. Car, en fait, le pas suivant chez Freud, à partir de son expérience de la névrose, des neuropsychoses, comme il disait, sera de produire une théorie de la pulsion pour penser à la fois la prévalence de la sexualité et le constat des défenses contre elle. Ce doublet étant ce qu'on pourrait appeler, dans les termes de Lacan, la condition humaine. Simultanément ou symétriquement, le pas de Lacan en 64 sera de dire que la seule transgression permise à l'homme, c'est la pulsion. Ce que l'on vient de parcourir à très grands pas nous mène au fond de l'affirmation du désir à la question « qu'est-ce que le désir ?» Si, comme le dit la fameuse dernière phrase de la Traoré de Thon, je cite Freud, « ces motifs inconscients ont la valeur de puissance réelle de la vie psychique. » Confronté à notre pratique, nous ne rencontrons jamais un sujet de désir, mais un sujet au fantasme ou un sujet du fantasme. C'est ce que Lacan répond dans sa fameuse réponse de 66 à des étudiants en philosophie. Ces étudiants en philosophie, c'était les membres du cercle d'épistémologie de la rue d'Ulme. Et il reprend, du reste, de façon très concentrée, cela, enfin, c'est déjà de façon très concentrée, dans le séminaire 11, dans une réponse à une question très générale que lui fait Miller, aux pages 167-169 du séminaire 11. La réponse de Lacan est en fait une réponse à l'existentialisme latent du milieu philosophique de l'époque. Il affirme, contre au fond le sujet sartrien, le sujet qui se veut de désir, il affirme que le sujet est mené par son fantasme. Et je cite ces pages 167-169, il dit « à ce niveau, nous ne sommes même pas forcés de faire entrer en ligne de compte aucune subjectivation de sujet. » Quelques lignes plus loin, le sujet lui-même se situe comme déterminé par le fantasme. Et enfin, le fantasme est le soutien du désir. Cela aussi, c'est spinozien, n'est-ce pas ? C'est le premier genre de connaissance, c'est-à-dire que l'imaginaire occupe le terrain du sujet. Ou le terrain où le sujet erre, disons. Mais à la page précédente, donc 167 du séminaire 11, Lacan, au fond, répond à Miller quelque chose de décisif. Il dit d'abord, le sujet s'apercevra que son désir n'est qu'un vain détour. Formule difficile à saisir, je vais essayer de rendre compte tout de suite. Mais surtout, il avance sa phrase capitale, Lacan dit du sujet, il s'apercevra qu'il y a une jouissance au-delà du principe de plaisir. Annonce majeure du séminaire 11, à la fois lapidaire et qui fraye ce à quoi ouvre ce séminaire. Si le sujet est déterminé par le fantasme, cela désigne donc que la jouissance prime sur la structure. Lacan le dit alors de diverses façons. On l'a vu tout à l'heure rapidement, en 59, avec le plaisir indéfinissable qui mène toute la tendance inconsciente. Ici, en 64, il parle de, citation, « la détermination du fonctionnement du réel ich qui à la fois satisfait au principe de plaisir et en même temps est investi sans défense par les montées de la sexualité, voilà qui est responsable de sa structure. » Le tournant de Lacan s'opérera à partir de là, par la déduction de l'objectita, montrant que c'est parce que le sujet tourne et retourne à la pêche du plus de jouir que son désir, aiguillé par le fantasme, est son permanent détour. Maintenant, j'annonce ou j'avance ma thèse de ce soir. c'est que le concept de la jouissance tel que Lacan l'introduit donc dans la psychanalyse nous mène à un second retour à fond. En suivant la dominance de la jouissance dans l'élaboration de Freud, c'est-à-dire celle de l'au-delà du principe de plaisir, ce qui se révèle, c'est que l'éthique freudienne, si elle veut se tenir à hauteur de désir, ne se constitue pas de principes moraux, mais a pour point focal une théorie du désir. Ce second retour à Freud a un programme, mettre l'inconscient freudien et le réel lacanien à l'épreuve de la jouissance. Et si on s'y applique, ce qui se met en place, me semble-t-il, c'est que l'homme freudien, c'est l'homme pulsionnel. Alors ce programme n'est certes pas réalisable dans le cadre de mon intervention de ce soir, je vous rassure tout de suite, j'ai simplement posé un ou deux jalons pour finir dans le work in progress de Freud. J'y vais directement aux trois traités de 1905 sur la théorie sexuelle, trois essais, trois traités, qui sont à la fois un coup de projecteur sur le sexuel prévalent dans la vie psychique et une sorte de coup de tonnerre ouvrant à une problématique de la pulsion comme secret de la vie sexuelle. C'est ce qui va ensuite occuper la période suivante de Freud. Les questions sur lesquelles nous laissent les trois essais ou les trois traités, on pourrait en gros les condenser en deux interrogations. Y a-t-il dans la sexualité quelque chose de plus fondamental que le fantasme? Alors même que Freud vient d'expliquer dans le premier traité que le fantasme est ce qui fait la soudure si peu naturelle entre la pulsion et l'objet. Ou autrement dit, autre question, y a-t-il un fondement aux errances, aberrations de la sexualité humaine? Réponse dans le temps suivant de l'œuvre, le pulsionnel. Et sa description des agencements symboliques et imaginaires qui sera le thème de pulsion et destin des pulsions et qui rendra compte des perversions. Mais dès 1905, Freud pose un réel du sexe, une dimension réelle du pulsionnel. Et cela, il le fait dans cette sorte de quatrième traité, ou de quatrième essai, qui s'intitule en français, suivant les traductions, « Récapitulation » ou « Résumé », et qu'en général on lit, disons, de façon cursive. Or, cette récapitulation est en fait un quatrième traité. Une grande importance, et qui se termine par la fixation. En deçà des aberrations où elle se donne corps et de ses dérivations dans le symptôme, la sexualité percute sur son réel. Le texte de cette récapitulation reprend d'abord de façon très forte le doublet perversion-névrose dont nous parlions tout à l'heure, avec une audace tout à fait propre à Freud, qui démasque les jeux névrotiques avec la perversion foncière, et qu'il ponctue d'un jeune putain, vieille dévote. Mais sa véritable audace n'est pas là. Sa véritable audace, c'est dans l'affirmation que la vie sexuelle est pilotée, aimantée par la fixation libidinale à laquelle elle ne cesse de faire retour. Or, je signale que c'est dans cette dernière page de l'ouvrage que Freud parle pour la première fois de contrainte de répétition. Terme qui ne refera surface que 15 ans plus tard, dans la déduction de la pulsion de mort, dans l'au-delà du principe de plaisir. Alors textuellement, des petits éléments de retraduction, très brièvement, Freud dit « Il y a une fixabilité, les traducteurs français proposent d'habitude comme capacité de fixation. Nous sommes en quelque sorte accrochés à la fixation. Le terme allemand est Haft. C'est une sorte, si vous voulez, la fixation suscite en nous, en quelque sorte, une addiction, une accroche absolue, une captivation-captivité. Le texte dit que la fixation agit de toute son efficace pour déterminer notre sexualité. Je le cite, en ayant un peu retraduit, « pour la conduire sur le mode de la répétition et imposer ses droits à la pulsion sexuelle pour la durée de l'existence. » La fixation, nous dit-il, est le nom de l'effet des impressions sexuelles de l'enfance, fixer, voire incorporer. Voilà ce qu'on trouve en 1905 chez Freud, si l'on repère la mise en fonction de la jouissance dans la vie psychique. Le réel du désir, l'homme jouissance, c'est lui qui fait l'indestructibilité du désir. C'est à la fin du séminaire Le Transfert que Lacan parle de réel du désir, comme je l'ai proposé dans la petite annonce aujourd'hui du séminaire. Le réel du désir qui, dit-il, se livre au plus brûlant de notre expérience, c'est-à-dire dans le transfert. Il a passé alors une année entière à parler du transfert et nous met en garde de ne pas le faire à tort et à travers. Dans cette avant-dernière leçon du transfert en juin 61, qui s'appelle, souvenez-vous-en, « Rêve du nombre, l'homme ». Il y a, dit-il, une opacité essentielle qu'apporte dans le rapport à l'objet la structure narcissique. Mais, et c'est alors l'échappée possible d'une analyse, il y a, dit Lacan, plus réel que l'ombre. Il y a, je cite, « tout d'abord et au moins un réel du désir dont cette ombre nous sépare ». Je ne peux pas suivre dans Freud ce qui répond par éclairs successifs à ces avancées de Lacan. J'indique seulement, de façon très très cursive, le chapitre théorique Schreber, avec l'équation fixation-refoulement, la découverte en 1915 du refoulement originaire, en 1917 le titre de la conférence 18 d'introduction à la psychanalyse, la fixation au trauma, point l'inconscient. Mais je ne m'y attarde pas plus, une seule remarque avant de terminer, concernant la 23e conférence, et ce que j'ai mis au tableau, c'est-à-dire le schéma de la causation de la névrose. Avec la constitution sexuelle dite vécu préhistorique par Freud et le vécu infantile en soubassement et en superstructure, si l'on peut dire, la névrose, disposition par fixation de la libido plus trauma. Alors, je ne vais pas m'y attarder, simplement je rappelle cette problématique dans Freud d'une causalité des névroses qui balance entre un héritage sexuel d'avant le sujet, dit préhistorique, et le vécu infantile du névrosé lui-même. L'alternative entre ces deux pôles d'une causalité en quelque sorte, hésite si on suit les textes de Freud après 1917. Je ne m'y attarde pas, c'est tout à fait passionnant, mais on pourra le faire à une autre occasion. Elle hésite, la causalité névrotique, entre le constitutionnel, entre guillemets, et le traumatique. La question est au fond pour Freud, qu'est-ce qui, d'une vie sexuelle individuelle, provient de la transmission des parents, des ancêtres, voire de l'espèce, et qu'est-ce qui provient des avatars et des événements d'une vie individuelle. Dans la complexité de cette question, poursuit Freud jusqu'au Moïse, il faudra, me semble-t-il, le dernier enseignement de Lacan pour s'y retrouver. Si la question dite de la phylogenèse ou du constitutionnel est la question de ce que les parents transmettent à l'enfant quant à la détermination de sa sexualité et de ses symptômes, ce n'est ni le patrimoine préhistorique, ni le patrimoine génétique, c'est leur jouissance qui en est la cause. Plus précisément, la jouissance sédimentée est déposée et transmise par leur usage jouissant du langage, ce que Lacan nous a appris à appeler la langue. Le bas à gauche du tableau, la constitution sexuelle dite préhistorique, c'est au fond, me semble-t-il, le bain de la langue par lequel l'enfant apprend le langage, accède au symbolique, comme nous disions d'ailleurs. La fameuse transmission des caractères acquis que Freud reprend à Lamarck et à Weismann n'est pas inscrite dans une histoire mythique de l'espèce ni de la race. Elle est charriée par la jouissance prise au signifiant. Causation de la névrose dans le vocabulaire de Freud, noyau du symptôme et de l'affect dans celui de Lacan. Alors on pourrait réécrire ce schéma en mettant ici, au fond, jouissance subie des parents, et ici, jouissance réappropriée par l'enfant dans son vécu infantile. Et comme effet, on pourrait mettre en cause fixation, comme Freud, et trauma, comme il l'a fait. Donc ici, comme double effet, du bas de langage, dans un mouvement à la fois subi et réapproprié, comme jouissance par l'enfant. Alors qu'en faire ? En faire dans l'analyse. Si nous sommes aux prises avec la fixité de l'injouissance et sa prise dans la langue, si nous saisissons que notre éthique est de nous régler sur le réel du désir, qu'est-ce qui est promis à l'homme pulsionnel ? Si tant est qu'il y ait promesse, que ne soit pas une escroquerie, comme dit Lacan, dès le séminaire éthique. Lorsque Lacan indique la voie dans le séminaire 11, c'est, car cela ne pouvait être autrement, me semble-t-il, sous forme de questions. Questions que vous connaissez fort bien. Comment peut-il vivre la pulsion, celui qui a traversé le fantasme ? Ce vivre la pulsion a quelque chose de dionysiaque, qui ne serait pas tout à fait étranger à l'humeur de Lacan, assez souvent. Mais si notre homme pulsionnel, notre homme ou notre femme pulsionnelle, c'est quelque peu déniaisé du fantasme, alors Lacan nous dit tardivement que le seul intérêt qu'a la psychanalyse, et c'est là-dessus que je terminerai, c'est que s'invente pour cet homme ou pour cette femme quelque chose de moins stéréotypé que la perversion.
Bon, Bernard, merci. On va tout de suite passer...